Mégaphone.
Le magazine de la rédaction de Jet.
Mobilisation
sociale et citoyenne.
Écologie,
économie sociale et solidaire. En pays nantais et au-delà.
Mégaphone, le magazine de la rédaction de Jet.
Alors, je m'appelle Marie Le Marchand, je suis donc comédienne.
Ok, basée à Nantes.
Basée à Nantes, en proche périphérie nantaise.
Membre de la CGT.
Membre de la CGT depuis très peu de temps.
CGT spectacle.
Hein. C'est CFA, oui.
Élie, on se connaît déjà, ouais. C'est pas tout à fait un hasard si tu es là aujourd'hui. Tu as été service civique technique à Jet et aujourd'hui tu exerces toujours dans le métier de la technique spectacle.
C'est ça, donc je suis technicien du son dans le spectacle vivant et adhérent à la CGT spectacle au sein du SYMTAC, donc syndicat des techniciens et des administrations du théâtre et du spectacle vivant en général.
Alors, tu es venu interpeller Jet sur la mobilisation en cours contre une énième réforme du régime d'assurance chômage pour les intermittents du spectacle. Qu'est-ce qui se passe en ce moment en termes de négociations, de remise en question ?
Je commence. Alors, en fait, on est dans le contexte des négociations pour l'assurance chômage entre le MEDEF et les syndicats représentants des salariés. Donc négociation qui a lieu avec une lettre de cadrage du gouvernement qui demande des économies sur l'UNEDIC, pour être exact 12 milliards d'économies sur 4 ans, donc 3 milliards par an, pour financer leur nouveau projet France Travail. Donc France Travail, en fait, c'est la fusion des différents services au sein de l'État, donc Pôle emploi, les missions...
Comment ? D'accompagnement à l'emploi, dans le cadre de la loi dite, enfin de la mesure dite de plein emploi.
Oui, c'est ça. Donc ça va fusionner Pôle emploi, les missions locales, le RSA, etc. Au sein d'une immense administration qui a notamment pour but donc, le plein emploi. Donc c'est au sein de ces négociations qu'ont lieu d'autres négociations pour le régime de l'intermittence, donc les annexes 8 et 10. Là, pour le coup, c'est le MEDEF qui demande à faire 15% d'économie sur ces annexes, donc qui concernent l'intermittence.
Mais plus précisément, ces annexes, ça implique quoi ?
Alors, donc les annexes 8 et 10, comme elle le disait, donc c'est une réforme de l'assurance chômage qui est globale, qui ne concerne pas uniquement les intermittents, les intermittentes. Donc les annexes 8 et 10, l'annexe 8, elle concerne les techniciens, techniciennes. L'annexe 10, elle concerne les auteurs et artistes dramatiques. Ben, ces 15% qui sont demandés sur le régime de l'intermittence en particulier, on ne sait pas encore si ça vise à réduire le nombre d'intermittents, donc à durcir les conditions d'accès et de maintien dans l'intermittence, si ça va être 15% de baisse sur les indemnités chômage. Ben, pour le moment, on n'en sait pas plus. C'est laissé dans le mystère des négociations ou des projets. Donc pour le moment, on ne sait pas exactement. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà en l'état, les annexes 8 et 10, elles ne protègent pas suffisamment les intermittents, les intermittentes. C'est-à-dire que même si on obtenait un statu quo, ça serait déjà une régression. Donc les aggraver derrière ça, ça serait pire. Mais nous, on avait déjà des revendications de 2019 qui avaient été signées. Il y avait eu un accord qui avait été signé, mais ça n'a pas été appliqué. Donc ce qu'on demande, c'est à la fois de préserver ce qu'on a déjà, qui sont les accords de 2016, à savoir 507 heures sur 12 mois pour entrer dans l'intermittence et qui permet d'être au régime de l'intermittence pendant un an. Le droit d'option également.
Alors le droit d'option, c'est quoi ?
En fait, le droit d'option, justement, c'est ce qui permet de basculer du régime général au régime de l'intermittence quand on travaille suffisamment au titre des annexes 8 et 10. Et donc, en fait, ça permet aux employés du régime général, aux anciens employés du régime général et de la fonction publique, de renoncer à leur droit au chômage au régime général pour basculer au régime de l'intermittence. Mais la revendication actuelle, c'est que, en fait, les conditions pour avoir le droit à ce droit d'option sont assez compliquées et, en fait, empêchent beaucoup de personnes de rentrer dans l'intermittence et, du coup, et ça les met dans un entre-deux très compliqué. Où ça peut retarder souvent la professionnalisation et mettre des personnes dans des situations précaires assez dramatiques.
Et en ce qui concerne les accords de 2019, donc, ce qui était demandé, c'était le décalage de la date anniversaire, notamment en cas d'arrêt maladie, puisqu'à l'heure actuelle, sur les arrêts maladie de moins de 3 mois, il n'y a pas de décalage de la date anniversaire. C'est-à-dire que lorsqu'on devient intermittent, qu'on renouvelle son intermittence pour un an, c'est de date à date. Et si par exemple on est malade pendant qu'on a un arrêt maladie d'un mois,
Congé maternité alors.
Exactement, ça en fait partie aussi, le décalage aussi du congé maternité, ça fait aussi partie des revendications puisque ça n'est pas.
Là c'est de date à date et peu importe ce qui se passe dans la vie. C'est de date à date pour faire ses heures.
Voilà. Et donc, ce qui est important aussi pour nous en termes d'égalité homme-femme, mais aussi de valoriser le congé paternité, qu'il puisse être pris. Et également, ce qui est demandé, c'est pour les revendications actuelles, c'est une revalorisation de l'allocation plancher, donc du montant minimum d'indemnisation, et qui soit indexé sur l'inflation.
Pour l'instant, le montant minimum de l'indemnisation
Pour les techniciens, est de 38 euros par jour non travaillé et 44 pour les artistes. À l'heure actuelle, ce n'est pas indexé sur l'inflation, donc comme on le sait, en ce moment, ça grimpe, donc ça pose des problèmes.
Mais ça veut dire que, quand même, globalement, la mobilisation des intermittents du spectacle dans le cadre de ces négociations, c'est une mobilisation de prévention pour faire pression dans les futures négociations, pour à minima ne pas régresser, voire même aller dans le sens des revendications que vous venez de nous lister.
Pas vraiment de la prévention, parce qu'on sait que le MEDEF a ses objectifs, il les dit clairement et ils essayent de les imposer. On sait que certains syndicats sont prêts à mettre les intermittents dans la balance pour négocier d'autres droits. Donc ça est déjà arrivé par le passé, on n'a pas envie que ça se reproduise.
Oui, parce que certains syndicats ont commencé à signer ces objectifs d'économie
en tout cas,
de 15%,
à négocier.
Ouais. Alors est-ce qu'on peut être un peu plus précis?
Lesquels? La CFDT et la CFTC. Et qui ont signé la lettre de cadrage pour accepter la négociation, en tout cas dans ce cadre-là.
Alors quand on les entend, c'est accepter la négociation, ça n'est pas valider les 15% d'économie.
Non, effectivement. Mais c'est déjà arrivé que l'intermittent soit mis dans la balance pour préserver d'autres droits. Et nous, du coup, on se mobilise... Donc, pas seulement
du côté de la CGT Spectacle.
Du côté de la CGT, on se mobilise non seulement pour protéger le droit des intermittents, mais aussi dans le cadre plus général de négociations de l'assurance chômage et des économies demandées par le gouvernement, et surtout les économies qui vont être ponctionnées donc sur les caisses de l'UNEDIC, qui sont les cotisations et la CSG qui est prélevée sur le salaire. Donc, ce sont financées par les salariés. Et donc le gouvernement veut prendre cet argent pour financer France Travail, qui est un outil gigantesque de contrôle et de pression sur les sans-emploi et les salariés.
Peut-être qu'il faut préciser que pour le moment, le régime d'assurance chômage est à l'équilibre, voire excédentaire. Ça fait partie de ce que vous mettez en avant en termes d'argumentaire. Donc il s'agit bien de faire des économies sur l'assurance chômage, alors intermittent mais pas que, on l'aura compris, de l'ordre de 3 à 4 milliards d'euros par an, pour pouvoir financer un nouveau projet de politique publique qui s'appelle France Travail.
Sur le régime de l'assurance chômage, mais également sur tout ce qui va permettre d'accompagner les personnes privées d'emploi dans leur reprise d'emploi, dans leur recherche de travail, dans leur épanouissement professionnel. C'est-à-dire que ça va concerner également les bénéficiaires des minima sociaux, puisqu'on voit ce qui se passe aussi au niveau du RSA avec ce qui a été pour le moment validé.
L'obligation de travail de 15 heures par semaine.
Exactement, pour moins d'un SMIC. La négociation autour des annexes 8 et 10, elle ne concerne pas que les intermittents, les intermittentes. En réalité, elle est interprofessionnelle, c'est-à-dire que la pression, elle est mise aussi bien sur les personnes privées d'emploi que sur les salariés, puisque ça va concerner en réalité tout le monde.
Alors justement, si c'est interprofessionnel, quelle mobilisation, à la fois du côté de la CGT Spectacle, mais aussi au-delà, mobilisation sociale, pour peser dans ces négociations de réforme et d'économie sur l'assurance chômage?
Du côté, en tout cas, des intermittents, on se mobilise depuis cette semaine, enfin en tout cas depuis le 13 octobre, et en particulier cette semaine, parce que les négociations pour nous se terminent le 27. Donc notamment vendredi, Il y a un rendez-vous au NEF à 18h. Donc le public est invité à venir pour se renseigner et pour en parler.
Donc sous les machines, près des machines de Lille, sur l'île de Nantes.
C'est ça, voilà, exactement.
Je voulais insister sur le fait qu'on a un temps de négociation et de réaction qui est, ou de réponse qui est extrêmement serré, à savoir que la lettre de cadrage, elle a été envoyée par le gouvernement en août et que la création de France Travail est prévue pour le 1er janvier 2024. Donc on a un temps qui est extrêmement serré, puisqu'en août, bon, globalement, il n'y a pas grand monde. Septembre, c'est la rentrée. Donc, et comme le disait Élie, les négociations pour les annexes 8 et 10, c'est jusqu'au 27 octobre, donc ce vendredi. Et pour le régime général, c'est la mi-novembre. Donc on a quelque chose qui est extrêmement resserré, sur lequel on a très peu de temps, en réalité, pour s'organiser.
Pour suivre vos mobilisations, justement, comment fait-on ?
Alors, la CGT Spectacle est présente sur Facebook, enfin la CGT Spectacle nationale et la CGT Spectacle Loire-Atlantique en particulier. Donc on est présent sur Facebook, sur Instagram, il y a le site internet aussi. Donc vous pouvez suivre tout ça et donc les informations sont diffusées en temps voulu en général sur les réseaux.
Une dernière question un peu poil à gratter. Quand on voit les mobilisations qui ont eu lieu contre la réforme des retraites, comment est-ce que vous continuez à garder la foi dans l'impact de mobilisation sociale ?
En se syndiquant, tout simplement. Enfin, après les retraites, je me suis syndiqué. Donc c'est tout récent, parce que justement, pour retrouver un collectif, en fait, tout simplement, ne pas mijoter dans son coin tout seul. Donc ça peut être se syndiquer, rejoindre des assos, des collectifs, il y en a plein, sur plein de sujets, et c'est des luttes importantes, et je pense que voilà, retrouver un sens du collectif, c'est important, et ça permet de garder un moral malgré tout.
J'ai envie de dire, on n'a pas le choix, en fait. Et aussi comprendre que cette mobilisation et ces réformes envisagées, elles concernent tout le monde. Même si, en admettant qu'elle ne concernait que la culture, ça serait extrêmement grave de toute façon, puisque la culture a un impact de toute façon sur l'esprit critique, sur l'esprit citoyen, sur le fait d'être vigilant et alerte sur ce qui se passe. Mais en l'occurrence, ça concerne absolument tout le monde.
Merci tous les deux d'être venus nous parler de ces sujets sociaux, et on l'aura compris, assez essentiels.
Merci beaucoup.
Merci.
Le magazine de la rédaction de Jet.
Mobilisation
sociale et citoyenne.
Écologie
sociale, économie sociale et solidaire. En Pays Nantais et au-delà.
Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
Bonjour, les orchidées sauvages, on peut dire aussi orchidées indigènes ou orchidées spontanées, sont des plantes qui n'ont pas de peau. Ce sont des végétaux qui poussent dans la nature. On les qualifie de rares lorsque le nombre de leur peuplement est faible. Roland Lemoigne, l'un des fondateurs de la Société d'orchidées Loire-Océan, la SOLO, a constaté qu'un terrain situé sur l'une des 24 communes de Nantes Métropole était envahi par des plantes opportunistes et que les orchidées disparaissaient. Depuis 2020, la SOLO assure l'entretien de ce terrain.
Nous sommes sur la commune de Sainte-Luce. C'est le chemin de la barre qui rejoint le chemin de Halage.
Roland Lemoigne.
Et à cet angle-là, il y a une parcelle qui est tout à fait indépendante des autres champs exploités, qui contient plusieurs plantes rares. Il y a des orchidées, mais il y a aussi une fougère rarissime, qui est ici très abondante. Et donc cette partie a été classée en zone naturelle sensible par le département de Loire-Atlantique, et est classée dans la ZNIEF, qui longe la Loire, c'est-à-dire que c'est une zone qui ne peut pas être constructible. Mais le problème est qu'elle est en train de se faire envahir, notamment parce qu'on ne s'occupe pas des arbres. Et donc notre travail consiste à nous occuper du lierre qui entoure les arbres, aidé par le département qui va ensuite abattre petit à petit les arbres pour retourner à l'ancienne émonde. Les arbres étaient à peu près taillés à 1 mètre de hauteur. Ceci permet à ce moment-là, cette parcelle, d'être beaucoup moins ombragée, mais en même temps de faire se développer des orchidées dont certaines ici sont très rares.
Ça veut dire ZNIEF.
Zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et forestier.
Est-ce qu'on peut s'étonner que ce soit une zone avec des espèces rares ?
Alors, c'était une ancienne parcelle qui avait une exploitation de type familial, mais qui a été abandonnée il y a plus de 30 ans, probablement au moins 40 ans. Ce qui fait que les sels minéraux qui empêchent le développement des orchidées ont été lessivés et il se trouve que la parcelle est en équilibre. Cet équilibre était intéressant, c'était l'équilibre d'une pelouse littorale de la Loire, mais il se trouve que les arbres ont poussé spontanément, on ne les a pas abattus, et l'ombre qu'ils font maintenant permet à des plantes invasives de venir s'installer et de détruire les stations d'orchidées. Donc notre travail est d'alerter, et on s'en occupe physiquement, d'alerter la commune qui a décidé d'agir pour que justement cette aire de pique-nique ombragée ne soit pas trop ombragée.
Vous donnez de votre temps pour entretenir la parcelle de Sainte-Luce. Alors, il n'y a pas de mauvaises herbes, mais on enlève quoi ?
Bien là, on enlève les ombellifères.
Steven Dupuis.
Ce sont des plantes qui poussent très vite et qui étouffent tout ce qu'il y a autour. On vient une fois par mois environ.
Et à chaque fois pour enlever ces herbes-là ?
Non, plutôt cet hiver et début de printemps, on enlevait le lierre qui poussait sur les arbres qui est tout autour.
Vous utilisez quels outils ?
Que des outils manuels. Donc fourche, sécateur, petite scie à main, vraiment rien de dangereux.
C'est très curieux, il y a des orchidées indigènes qui sont rares.
On et qui sait. Poussent partout sans qu'on le sache. Oui, c'est très curieux. Là, moi, j'ai découvert ça il y a environ 3 ans. Donc ça a été beaucoup plus tard que les orchidées exotiques. C'était une vraie surprise.
Et au niveau bilan carbone, c'est sympa puisqu'on est à proximité de Nantes, donc on n'est pas obligé d'aller au bout du monde pour pouvoir apprécier.
Ah oui, c'est juste à côté.
Là, ce qui est rare surtout, c'est que 5 espèces se retrouvent sur la même parcelle et accompagnées d'une fougère très rare aussi, ce qui fait qu'elle est tout à fait exceptionnelle au niveau du biotope. Et probablement donc qu'on va petit à petit découvrir d'autres espèces rares parce qu'elle a forcément un intérêt évident vu la densité d'espèces par rapport à sa surface. Il fait 3700 m². Bon, essayer de trouver 5 espèces d'orchidées sur 3700 m², il n'y a qu'ici.
Vous savez que poussent sur cette parcelle des orchidées indigènes ?
Les petites violettes là ? Ah oui, je ne savais pas que c'était des orchidées, mais bon, je sais qu'il y a des fleurs par là, oui.
Vous êtes du coin ?
Oui, oui.
Là, il y a des espèces à protéger.
Comme les frétillères, là. Il y a la pancarte, d'habitude, elle est toujours là, qui dit qu'il faut garder ça.
Merci, Janine.
Ce qui nous gêne un peu, c'est que, bon, c'est en même temps aire de pique-nique, donc c'est un peu piétiné. Bon, il y a même droit à avoir des feux le week-end.
Jocelyne Sirement.
Mais on a constaté quand même que depuis qu'on y travaille, il y a pas mal d'orchidées indigènes qui ont repris des forces et qui réapparaissent et qui se sont même un petit peu multipliées.
En France, environ 160 espèces d'orchidées rares sont répertoriées. Il est fort possible que près de chez vous, sans le savoir, vous les côtoyez. Si vous repérez une orchidée rare, n'hésitez pas à contacter la Société d'orchidées Loire-Océan ou la Société botanique du Centre-Ouest.
Notre but, c'est quand même aussi la protection. Avant tout, c'est surtout ça.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Un reportage de Michel Sourget pour Alternante FM.